C'est votre revue de presse, Frédéric Pommier. Bonjour.
Bonjour, cher Eric, et bonjour à tous. Irina va-t-elle dire oui à Bauer? Le policier Jean-Paul Bauer, qui, alors que la jeune femme sortait à peine du coma, lui a donc demandé sa main. Elle était alitée dans sa chambre d'hôpital, et c'est à la toute dernière seconde de l'épisode, juste avant le générique, que Bauer a proposé à Irina de l'épouser. Pour ceux qui ne connaissent pas, Eric.
Bah oui, c'est quoi cette histoire?
Ce sont deux personnages du feuilleton Plus belle la vie. Et cet épisode, diffusé le 1er mai, est le dernier à avoir été enregistré avant le confinement. Ensuite, les 3,5 millions de téléspectateurs ont eu droit à des rediffusions. Et depuis le 1er mai, ils vivent donc avec cette question. Irina va-t-elle finalement dire oui à Bauer? Ils le sauront bientôt. Car comme on peut le lire dans Libération, voilà maintenant 3 semaines que les tournages ont repris à Marseille, après 2 mois et demi d'interruption pour cause de crise sanitaire. Et dans des conditions bien différentes qu'avant, à cause, là encore, de la crise sanitaire. Il y a des règles à respecter, notamment en matière de distanciation physique. Désormais, on ne tourne plus en extérieur dans la ville. Les séquences se concentrent dans les studios de la Belle de Mai et sur quelques lieux privés fermés au public. Il y a dorénavant un médecin sur le plateau. Le régisseur joue le rôle de shérif. Il contrôle la désinfection des décors et les sens de circulation. Les maquilleuses et les coiffeuses n'interviennent plus entre les prises. Si nécessaire, les comédiens font eux-mêmes leurs retouches. Les auteurs du feuilleton se sont également adaptés. Plus de scènes de bagarre, plus de bisous, interdit d'être assis à deux à l'avant d'une voiture. Pour autant, le Covid-19 n'affectera pas à l'écran la vie des habitants du quartier du Mistral. Décision de la production, pas de masque, donc, ni de pandémie mondiale modifiant le scénario prévu initialement. Une décision à contre-pied de l'esprit habituel qui veut que les épisodes collent toujours au plus près de l'actualité. Eh bien non. D'habitude, on parlait des élections du bac du 14 juillet. Là, non. La raison, c'est que les auteurs ne pouvaient pas prévoir comment allait évoluer l'épidémie. Et puis, explique le directeur de collection de la série, j'ai le sentiment que les gens n'ont plus envie d'en entendre parler du coronavirus. Donc, on a préféré leur montrer une réalité plus belle la vie. C'est-à-dire une réalité embellie. Mais il est parfois des histoires qu'on ne peut embellir précisément car il s'agit de la réalité.
Oui, et c'est dans le journal Le Monde, les violences policières au Brésil.
Avec un reportage à Rio de Janeiro. Le récit de l'après-midi du 18 mai dernier. Nelton Pinto, 40 ans, se souvient de chaque détail. Le bruit de l'hélicoptère qui tournoie dans le ciel, les tirs en rafale qui résonnent au loin, la course effrénée à travers la favela de Salgueiro, et enfin la maison ceinturée par les forces de sécurité qui pensaient y découvrir des délinquants. Maison criblée d'impacts de balles où quelques instants plus tôt jouait son fils Joao Pedro. Il jouait chez son oncle avec des cousins et il a été tué lors de l'assaut. Joao Pedro avait 14 ans, il était noir et pour son père, il a été victime d'une barbarie raciste. La police n'aurait jamais osé attaquer la maison d'un blanc d'un quartier riche, enrage-t-il. Bruno Meyerfeld, qui signe l'article, s'interroge. À la différence de George Floyd, la mort tragique de Joao Pedro n'a pas ému la planète. Est-ce parce qu'elle n'a pas été filmée ou parce que ici, elle est d'une monstrueuse banalité? Aux deux questions, il convient de répondre par l'affirmative. Effectivement, aucune image. Effectivement, monstrueuse banalité. La police brésilienne est l'une des plus violentes du monde. En 2019, elle a tué 6000 personnes. Dans 3/4 des cas, il s'agissait d'hommes noirs, le plus souvent jeunes et issus de quartiers défavorisés. Les violences policières en France. Un autre visage ce matin, c'était il y a un an, dans la nuit du 21 au 22 juin. Nuit de la fête de la musique, un jeune homme se noyait lors d'une intervention musclée des forces de l'ordre à Nantes pour interrompre une free party. Steve Maya Canisso avait 24 ans, Presse Océan, Ouest France et Le Télégramme font le point sur l'enquête ce matin. Seront bientôt rendus publics les résultats des expertises téléphoniques. Et puis, dans les journaux, on parle également d'autres morts. Ce n'est pas plus belle la vie, là c'est plus gore la mort et c'est le dossier à la une de Libération. Très riche ce matin.
Oui, avec ce titre, le scandale des morts, la colère des vivants.
Dossier sur le scandale, révélé fin novembre par la journaliste Anne Jouan dans l'Express. Véritable charnier découvert au centre de dons des corps de l'Université Paris-Descartes. Centre qui recueille donc des dépouilles léguées à la science et ces dépouilles étaient conservées dans des conditions épouvantables. Le journal a pu consulter des photos, les détails sont insoutenables. Des cadavres entassés sur des chariots, le bras d'un homme sur la cuisse d'un autre, des têtes fourrées pêle-mêle dans la chambre froide et sur des étagères, des morceaux de membres moisis, certains rongés par des souris, un carrelage maculé de sang. L'intérêt de ce dossier de Julie Braffman est qu'elle redonne leur existence à ces dépouilles. Elle a rencontré des familles de défunts, familles qui sont nombreuses à avoir porté plainte. Dominique Leblon évoque ainsi le souvenir de ses parents, Louise, costumière de théâtre, et Jacques, cadre sup. En choisissant de céder leur corps à la science, ils se disaient très fiers de contribuer à la formation de futurs médecins. Idem pour Marie-France, elle était secrétaire, très croyante, et voulait aider la médecine à progresser. Et puis dans ce groupe d'une soixantaine de familles qui s'est créé, on trouve également la fille de la comédienne Micheline Dax, qui avait choisi de léguer son corps à la science parce que, disait-elle, elle détestait les enterrements. On trouve aussi le fils de notre très regretté José Arthur, lequel disait qu'il ne voulait pas finir 6 pieds sous terre ni dans un columbarium et considérait, je cite, que se faire tripoter par des étudiantes était un sort post-mortem plus enviable. On a vu le résultat, les proches de ces défunts attendent aujourd'hui bien davantage que de simples excuses.
Enfin, plus léger dans la presse, un air de vacances qui flotte ce matin en couverture de plusieurs journaux.
Et oui, alors que selon un sondage, 90% des Français ont prévu de rester dans l'Hexagone cet été. La Provence vante les atouts de sa région, les grands espaces des Alpes du Sud et bien sûr les rives de la Méditerranée. Tout pour plaire, en somme. C'est le titre à la une. Autre invitation dans le Petit Bleu d'Agen. Cet été, misé sur le numéro 47. Et pourquoi pas la Nièvre également s'interroge pour sa part le journal du centre. Alors le 47, c'est le Lot-et-Garonne. La Nièvre éventuellement, quant à savoir si Irina a dit oui au policier Bauer dans Plus belle la vie. Oui, c'était la question d'ouverture. Eh bien, vous aurez la réponse le 29 juin. Soyez patient, cher Eric.
Comme vous dites, je suis impatient. On brûle d'impatience, effectivement.
Alors, j'ai la réponse. Elle n'a peut-être pas dit oui.
Attends, on va pas spoiler pour ceux que ça intéresse. Merci Frédéric Pommier et à demain. Pour la lecture des journaux dominicaux.